Encyclopédie, article, lecteur. Lecteur, terme général, c'est toute personne qui lit un livre, un écrit, un ouvrage. Un auteur à genoux, dans une humble préface, au lecteur qui l'ennuie a beau demander grâce, il ne doit pas l'espérer lorsque son livre est mauvais, parce qu'on ne le forçait à le mettre pas au jour. On peut être très estimable et on y aurait l'art de bien écrire. Mais il faut aussi convenir que la plupart des lecteurs sont des juges trop rigides et souvent injustes. Tout homme qui sait lire se garde bien de se croire incompétent sur aucun des écrits qu'on publie. Savants et ignorants, tous s'arrogent le droit de décider. Et malgré la disproportion qui est entre eux sur le même, tous sont assez uniformes dans le penchant naturel de condamner sans miséricorde. Plusieurs causes concourent à leur faire porter de faux jugements sur les ouvrages qu'ils lisent. Les principales sont les suivantes. Discutées définitivement, attentivement par un habile homme du siècle de Louis XV, qui n'a pas dédaigné d'épancher son cœur à ce sujet. Nous lisons un ouvrage et nous n'en jugeons que par le plus ou le moins de rapport qu'il peut avoir avec nos façons de penser. Nous offre-t-il des idées conformes aux nôtres ? Nous les aimons et nous les adoptons aussitôt. C'est là l'origine de notre complaisance pour tout ce qui nous approuvons en général. Un ambitieux, par exemple, plein de ses projets et de ses espérances, n'a qu'à trouver dans un livre des idées qui retracent avec un éloge de particulière pareilles images, il goûte infiniment ce livre qui le flatte. Un amant, possédé de ses inquiétudes et de ses désirs, va chercher des peintures de ce qui se passe dans son cœur, n'est pas moins charmé de tout ce qui lui représente sa passion qu'une belle personne l'est du miroir qui lui représente sa beauté. Le moyen que de tels lecteurs fassent usage de leur esprit, puisqu'ils n'en sont pas les maîtres, comment puiseraient-ils dans leur fond des idées conformes à la raison et à la vérité quand une seule idée les remplit et ne laisse point de place pour d'autres? De plus, il arrive souvent que la partialité offusque nos faibles lumières et nous aveugle. On a des liaisons étroites avec l'auteur dont on lit les écrits. On l'admire avant que de le lire. L'amitié nous inspire pour l'ouvrage la même vivacité de sentiment que pour la personne. Au contraire, notre aversion sur un autre, le peu d'intérêt que nous prenons à lui, et c'est malheureusement le plus ordinaire, fait d'avance du tort à son ouvrage dans notre âme, et nous ne cherchons en le lisant que les traits d'une critique amère. Nous devons, avec de semblables dispositions, porter notre avis que sur des livres dont les auteurs nous sont inconnus. Un défaut particulier à notre nation, qui s'étend tous les jours davantage et qui constitue présentement le caractère de lecteur de notre pays, c'est de dépriser, par air, par méchanceté, par la prétention à l'esprit, les ouvrages nouveaux qui sont vraiment dignes d'éloge. Aujourd'hui, dit un philosophe dans un ouvrage de ce genre qui durera longtemps, aujourd'hui, que chacun aspire à l'esprit et s'en croit avoir beaucoup, aujourd'hui, qu'on met tout en usage pour être un peu frais, spirituel et brillant, ce n'est plus pour s'instruire, c'est pour critiquer et pour ridiculiser qu'on lit. Or, il n'est point de livre qui puisse tenir contre cette amère disposition des lecteurs. La plupart d'entre eux, occupés à la recherche des défauts d'un ouvrage, sont comme ces animaux immondes qu'on rencontre quelquefois dans les villes et qui ne s'y promènent que pour en chercher les égouts. Ignorerait-on encore qu'il ne faut pas moins de lumière pour apercevoir les beautés que les défauts d'un ouvrage? Il faut aller à la chasse des idées quand on lit, dit en anglais, et faire grand cas d'un livre dont on en rapporte un certain nombre. Le savant sait lire pour s'éclairer encore et s'enquiert sans satire et sans malignité. Joignez à ces trois causes de nos faux jugements en ouvrage le manque d'attention et la répugnance naturelle pour tout ce qui nous attache longtemps sur un même objet. Voilà pourquoi l'auteur de l'Esprit des lois, tout intéressant qu'est son ouvrage, en a si fort multiplié les chapitres. La plupart des hommes et les femmes, sans doute, y sont comprises, regardent deux ou trois choses à la fois, ce qui leur ôte le pouvoir d'en bien démêler une seule. Ils parcourent rapidement les livres les plus profonds, et ils décident. Que de gens qui ont lu de cette manière l'ouvrage que nous venons de nommer, et qui n'en ont aperçu ni l'enchaînement, ni les liaisons, ni le travail. Mais je suppose deux hommes également attentifs qui ne soient ni passionnés, ni prévenus, ni portés à la satire, ni paresseux. Et cette supposition même est rare. Je dis que, quand la chose se rencontre par bonheur, le différent degré de justesse qu'ils auront dans l'esprit formera la différente mesure du discernement, car l'esprit juge sainement de tout, au lieu que l'imagination, séduite, ne juge seulement de rien. L'imagination influe sur les jugements à plusieurs, comme une lunette agit sur nos yeux, suivant la taille du verre qui la compose. Ceux qui ont l'imagination forte croient voir de la petitesse dans tout ce qui n'excède point la grandeur naturelle, tandis que ceux dont l'imagination est faible voient de l'enflure dans les pensées les plus mesurées et blâment tout ce qui passe leur portée. En un mot, nous n'estimons jamais que les idées analogues aux nôtres. La jalousie est une autre des causes les plus communes des faux jugements des lecteurs. Cependant, les gens du métier, qui par eux-mêmes connaissent ce qu'il en coûte de soins, de peines, de recherches et de veilles pour composer un ouvrage, devraient bien avoir appris à compatir. Mais que faut-il penser de la bassesse de ces hommes méprisables qui vous lisent avec des yeux de rivaux et qui, incapables de produire eux-mêmes, ne cherchent que la maligne joie de nuire aux ouvrages supérieurs, d'en discréditer les auteurs jusque dans le sein du sanctuaire. Ennemis des beaux génies et affligés de l'estime qu'on leur accorde, ils savent que, semblables à ces plantes viles qui ne germent et ne croissent que sur les ruines de palais, ils ne peuvent s'élever que sur les débris des grandes réputations, aussi ne tentent-ils qu'à les détruire. Enfin, d'autres lecteurs, revenus d'une erreur établie par nous, parmi nous, quand nous étions plongés dans la barbarie, savoir que la plus légère teinture des sciences dérogeait à la noblesse, affectent de se familiariser avec les muses, osant l'avouer, et n'ont après tout dans leurs décisions sur les ouvrages qu'un goût emprunté, ne pensant réellement que d'après autrui. On ne voit que des gens de cet ordre parmi nos agréables et ces femmes qui lisent tout ce qui paraît. Ils ont le héros de la littérature dont ils ne sont que l'écho. Ils ne jugent qu'en seconde, en tête de leur choix, et séduit par une sorte de présomption, d'autant plus dangereuse qu'elle se cache sous une espèce de docilité et de déférence, ils ignorent que pour choisir de bons guides dans ce genre, il ne faut guère moins de lumière que pour se conduire par soi-même. C'est ainsi qu'on tâche de concilier son orgueil avec les intérêts de l'ignorance et de la paresse. Nous voulons presque tous avoir la gloire de prononcer, et nous fuyons presque tous l'attention, l'examen, le travail et les moyens d'acquérir nos connaissances. Que les auteurs soient donc moins curieux de suffrage de la plus grande que de la plus saine partie du public. Autre sens de lecteur. Lecteur, lector. Et en grec, anagnostes, c'était chez ces deux peuples un domestique dans les grandes maisons destiné à lire pendant les repas. Il y avait même un domestique lecteur dans les maisons bourgeoises, où l'on se piquait de goût et d'amour pour les lettres. Servius, dans ses commentaires sur Virgile, parle d'une lectrice, lectrix. Quelquefois, le maître de la maison prévoit l'emploi de lecteurs. L'empereur Sévère, par exemple, lisait souvent lui-même au repas de sa famille. Les Grecs établirent des anagnostès qu'ils consacrèrent à leur théâtre pour y lire publiquement les ouvrages des poètes. Les anagnostès des Grecs et les lecteurs des Romains avaient des maîtres exprès qui leur apprenaient à bien lire et on les appelait en latin praelectores. Le temps de la lecture était principalement à souper dans les heures des vacations, au milieu même de la nuit, si on était réveillé et disposé à ne pas dormir davantage. C'était du moins la pratique de Caton, dont il ne faut pas s'étonner, car il était affamé de cette nourriture. Je l'ai rencontré, dit Cicéron, dans la bibliothèque de Lucullus, assis au milieu d'un tas de livres de stoïciens qu'il dévorait des yeux. Atticus ne mangeait jamais chez lui en famille ou avec des étrangers que son lecteur n'ait quelque chose de beau et d'agréable et d'intéressant à lire à la compagnie. De sorte, dit Cornelius Nepos, qu'on trouvait toujours à sa table le plaisir de l'esprit réuni à celui de la bonne chair. Les historiens, les orateurs et surtout les poètes étaient les livres de choix pendant le repas, chez les Romains comme chez les Grecs. Juvénal promet à l'ami qu'il invite à venir manger le soir chez lui qu'il entendra lire des vers d'Homère et de Virgile durant le repas, comme on promet aujourd'hui aux convives une reprise de Brelan après le souper. « Si mon lecteur, dit-il, n'est pas des plus habiles dans sa profession, les vers qu'il nous lira sont si beaux qu'ils ne laisseront pas de nous faire plaisir. »